Chapitre 8, Bal d'argent. Ces nuits-là, le petit Paris ne se couche pas. Aucune forêt n'est plus abondamment habitée. Ces nuits-là, le petit monde veille, avide de voir et d'entendre, curieux de flairer un parfum, de saisir au passage le feu d'un diamant ou l'éclair d'un regard, empressé à espionner les toilettes, désireux jusqu'à la fièvre d'approcher le plus près possible de ces joies vides et vaines qui lui semblent enviables entre toutes et dont il désespère de pouvoir se passer jamais. Le quartier Schwartz vivait en émoi comme un soir de feu d'artifice. Ces Schwartz, au fond, n'étaient ni aimés ni détestés. On ne leur en voulait guère que d'être si riches, mais il n'y avait contre eux aucune haine personnelle. Blanche, la chère enfant, planait au-dessus de ce coffre-fort. La prescription existe aussi pour le crime de bonheur. On excusait Blanche parce qu'elle était née dans ce velours frangé d'or. Osons dire le mot parce qu'elle n'était pour rien dans la conquête de la fortune. Il faut être fils de quelque chose. Blanche était fille de quelque chose. Elle était la seconde génération à qui l'on pardonne la conquête. Elle avait droit d'être belle, noble, secourable et d'éblouir comme un souriant rayon. Nous ne voulons pas avancer que le quartier, ameuté au dehors, se privât de médire. On médisait bien en dedans des portes du salon, mais ces humbles invités de l'extérieur n'en disaient pas plus long que les hôtes privilégiés de monsieur le baron. Ils venaient, concierges infidèles, commis de magasins, grisettes, flâneurs et curieux de toute espèce, parmi lesquels allaient et venaient ces philosophes qui sont au-dessus des passions humaines, les gardiens de la cité. Devant la porte, deux gardes nationaux à cheval se contemplaient mutuellement. L'ambition du quartier était de darder un regard à l'intérieur de la cour, chose difficile à cause de l'incessante procession des équipages et de la ténacité du premier rang des curieux qui, ayant acquis ses bonnes places au prix d'une heure ou deux d'attente, les eut défendues jusqu'à la mort. Il est superflu d'ajouter que toute la rue d'Enghien était aux fenêtres depuis l'entresol jusqu'au comble. Aux fenêtres, on se disait de ces choses « Le roi a envoyé ses fils avec bien des compliments. Ah, le jardin est couvert de cristal. La file des équipages commence à la Madeleine. Elle courait le cachet pour 30 sous. Quoi, il y en a qui ont de la chance. » Depuis 11 heures, les équipages passaient toujours, entrant dans cette cour fleurie, versant sous l'admirable marquise du Perron leur contenu de femmes, de diamants, de fleurs, et ressortant pour faire place à d'autres équipages. Les curieux se tordaient le cou. De temps en temps, un nom célèbre dans l'art, dans la politique ou dans la finance était prononcé. Alors il se faisait une petite convulsion dans la cohue. Personne ne voyait, mais chacun disait son avis sur cette figure devinée. Parmi ces innocents et ces oisifs, cependant, un mystérieux travail se faisait, le travail préparé par trois pattes à l'estamimé de l'épicier. Un homme vint à pied au bal de monsieur le baron Schwartz, le seul peut-être, et son nom prononcé par Riflard mit en émoi jusqu'au sergent de ville qui dépêchèrent un exprès à la préfecture. Riflard, neveu du concierge de l'hôtel, était à son poste. Il dit, comme c'était un homme de devoir, « C'est drôle de voir un oiseau pareil entrer chez les maîtres. » Et dans la rue, les numéros de 2 à 8, hommes et femmes, répétèrent le nom de monsieur Bruno, expliquèrent son humble position sociale et s'étonnèrent à grand bruit. Sans bruit, au contraire, et à la faveur de quelques fluctuations dans la foule, le même Riflard avait déjà introduit pour monsieur Champion et Chalot, qui laissa Saladin dans l'armoire de la concierge, et puis pour madame Champion, 6 000 or, muni d'un costume honorable, faisant valoir ses dons naturels. Puis les numéros 11 et 12, monsieur Ernest et mademoiselle Mazagran, chargés du garçon de caisse après le départ des vieux époux. Tout allait. On avait amplement parlé de Michel, d'Étienne et de Maurice. Ces cancans intéressaient assez les badauds pour que ces mêmes badauds fussent à l'heure donnée d'excellents témoins. Les invités de trois pattes étaient entrés, numéro 20 à 30, et un bonhomme qui portait sur son dos une boîte de lanternes magiques avait eu déjà 2 ou 3 disputes à cause de son instrument. Les numéros 30 à 40, vous savez qu'ils étaient aux fenêtres. Tout allait donc au dehors. Au dedans, soyez tranquille, vous n'aurez pas beaucoup de descriptions. Nous sauterons par-dessus les merveilles de l'escalier et nous ne ferons que mentionner les enchantements des salons. Ce n'est pas clémence de notre part, c'est que, en réalité, dans la maison Schwartz, il n'y avait pas grand-chose à peindre, hein, à cause de Madame Schwartz, dont le tact exquis était ici une sauvegarde, aidée, il faut le dire, par un expert, le délicat poète sensitive qui vend du goût aux profanes. Le bal était splendide. Vastes salons étincelants, parisiennes divinement belles. Le tout Paris des chroniqueurs y assistait en masse. Les salons du baron Schwartz étaient littéralement émaillés de grands noms. La cour y était représentée. Le faubourg Saint-Germain y avait envoyé une suffisante députation. Les lettres, les arts, l'argent, 3 royautés y foisonnaient, couronnes en tête. L'armée, la magistrature, la diplomatie tressaient le long des fastueux lambris une guirlande de générales, de présidentes, d'ambassadrices. Gaubwiller, alma mater de cette prodigieuse dynastie des Schwartz, eût été bien fier de voir ainsi l'Europe civilisée, que dis-je, l'Europe illustre, académique, officielle, entourer ce million qu'elle avait allaité petit sou. C'était sous la pluie ruisselante de ses clartés qu'elle était souverainement belle, Madame la baronne Schwartz. Giovanna Maria Reni des comtes Bozzo, avec son teint d'italienne mat et puissant, avec la royale noblesse de sa taille, avec la correction suprême de ses traits encadrés comme ceux de la femme du Titien dans la gloire prodigue de ses cheveux noirs. Elle échappait justement par le nom de sa famille, que nous avons à dessein rappelé, à la seule infériorité possible, à la protection de ses hôtes illustres. Elle était ici le pavillon éclatant qui couvrait de ses plis le blason pour rire, servant de poulaine au riche vaisseau Schwartz. Debout à son poste de maîtresse de maison, le visage éclairé par un digne et courtois sourire, je ne sais pourquoi vous eussiez dit qu'elle était assise sur un trône. Il y a de ces prédestinés qui règnent partout et toujours. On l'admirait, on l'enviait. Le baron Schwartz, et d'autres peut-être, l'adoraient. Je n'ai pas dit, on la respectait. Elle était million. Chez nous, personne, y compris les dévots du Vaudor eux-mêmes, personne ne respecte le million. Cela tient à plusieurs choses, dont aucune ne fait honneur ni au million ni à nous. Le bal du baron Schwartz, nous le savons, n'avait pas été donné pour la danse. Nous n'y sommes pas non plus pour voir danser. Ce qui nous importe, c'est d'y suivre notre aventure, qui hâte sa course et se précipite vers le dénouement. Le steeplechase de nos mystérieux parieurs passait inaperçu au travers de la fête, et cependant, leur effort occulte produisait amplement son effet. Des bruits allaient et venaient, dont personne n'aurait su dire la source. On s'occupait, outre mesure, de Maurice et de Blanche, qui seuls peut-être s'amusaient de tout son cœur. Un couple ravissant, disaient les personnes qui ont l'adjectif facile. Après tout, ce petit homme était le fils d'un chef de division. On peut avoir besoin de la préfecture. Ces choses se disaient dans une chapelle assez bien composée. « Ah, chère madame, cet ange blond aura 2 ou 3 fois la dot de la reine des Belges. On a parlé d'un monsieur Lecoq de la Perrière pour elle. Un gaillard bien étonnant. Avez-vous eu vent des absurdités qui se racontent au sujet de ce pauvre bon vieux colonel Bozzo Corona ? Il est certain que la comtesse, sa petite-fille, a été assassinée en plein Paris. La nuit, madame, sur un banc du boulevard. Et quel boulevard ! Oh, c'est au moins aussi une conduite étrange. Celle du meurtrier? On le connaît, monsieur, c'est l'habit noir. Gaillardbois me disait que ces coquins-là étaient plus de 10 000 dans Paris. Sait-on ce que la pauvre femme allait faire sur ce banc du boulevard? Dans une autre chapelle, qualité inférieure. Ah ça, ce jeune Michel tient donc à Monsieur Schwartz par des liens. Alors pourquoi cette éclipse?
La baronne, vous comprenez.
Ah, il a été loin un moment, jusqu'à Sainte-Pélagie, oui. Troisième chapelle, mêlée. Ah, les convenances, le baron est bien aise d'avoir avec lui un homme qui a fait partie de plusieurs assemblées, ça et ça et ça. Vous saviez de quoi il retournait entre lui et le colonel? Voyons, monsieur Cotentin, est-ce une mauvaise plaisanterie, l'histoire de ces habits noirs? Il y a de ça ou de ça. Mes hautes relations me mettaient à même, mais il ne m'est pas permis d'être indiscret. Quatrième chapelle, dessus du panier. Il est bien aise de voir ce monde-là de près. Une fois en sa vie, c'est curieux. Mais c'est un succès, j'ai aperçu la marquise. Et la vicomtesse et tout l'hôtel de... Ah, c'est un succès. Seulement, il y a trop de gens de la cour citoyenne. On les souffre bien au théâtre. Cinquième chapelle, petit coin humble et venimeux. Quoi qu'il ne soit pas aimé dans ce pays-ci, j'ai cru devoir accepter l'invitation. Ah, mon pauvre Blot, lui avait poursuivi plus d'un billet. Ah, vous verrez que ça finira mal, tous ces embarras qu'il fait. Dépenser des 100 000 francs pour souhaiter la fête d'une petite fille. On colporte déjà des histoires. C'est tous brigands maintenant. Vous ai-je dit que dimanche dans la voiture, j'en ai été pour ma tabatière, mon foulard et mon porte-monnaie. Ah. Ceci était un cri. Madame Blot, rentière, avait cru reconnaître au milieu d'un groupe le voyageur éloquent qui l'avait tant intéressé en comparant Paris à une forêt. Ce fut l'affaire d'un instant. Madame Blot s'était trompée, comme bien vous pensez. Mais parmi tous ces riens qui faisaient vivoter les conversations, un vague mouvement de curiosité se glissait, augmentant à chaque minute, sans que personne pût dire où il prenait naissance. Les noms du colonel Bozzo et de la comtesse Corona revenaient à chaque instant. On racontait avec 1000 détails la mort de celle-ci, et le nom de son meurtrier circulait, acquérant ainsi une célébrité funeste. Au bout de la première heure, nul n'ignorait plus le nom de ce Bruno, le marchand d'habits de la rue Sainte-Élisabeth. La comtesse Corona, nous l'avons dit, touchait de très près aux deux grands mondes qui divisaient alors la haute vie parisienne. Sa mort donnait tout à coup une effrayante réalité à cette légende des habits noirs, jusque-là entourée d'un nuage. Elle appuyait surtout d'une façon inopinée et frappante cette opinion de longtemps répandue parmi les crédules que la mystérieuse association, enfonçant ses racines jusqu'au plus profond de nos misères sociales, atteignait par ses hautes branches au sommet où la noble richesse semblait à l'abri de tout soupçon. Qui eût pensé jamais que le colonel Bozzo Corona... Il y avait une énigme. La comtesse, dont l'existence avait toujours présenté des côtés romanesques et obscurs, était-elle affiliée à l'association? Le drame dont elle était la victime avait une physionomie de châtiment ou de vengeance. Son mari, autre mystère. Et certes, la pente que prenait la préoccupation générale n'aurait point d'elle-même porté l'attention vers les trois jeunes gens, dont un seul, Michel, avait une ombre de notoriété. Cependant, on parlait d'Étienne et de Maurice en même temps que de Michel. Ils étaient, disait-on, les voisins de ce Bruno. Ils faisaient, qui avait mis sur le tapis ce bavardage, un drame avec l'affaire Ménotte. Nul ne connaissait l'affaire Ménotte, et pourtant on racontait l'histoire de la nuit du 14 juin 1825 à Caen. Qui donc prenait tant de peine? Des personnes complaisantes. On ignorait leurs noms, c'étaient des invités. Dans un bal comme celui où nous sommes, il y a toujours au bas mot un demi-cent de seigneurs que nul n'a présenté et sur le visage desquels le maître de la maison lui-même ne saurait pas écrire un nom. Ceux-là, quels qu'ils fussent, ne manquaient point un bal de monsieur le baron Schwartz. Ils parlaient, et jamais les nouvellistes innocents ne font défaut pour colporter les paroles. Edmé, cette délicieuse créature, avait sa part des cancans. On l'avait vue maîtresse de piano, on la retrouvait parée simplement, mais d'une façon si charmante. Avec Madame Schwartz, elle avait des honneurs de ce succès qui consiste à concentrer sur soi toutes les jalousies éparses. Était-elle de la famille? Alors ces Schwartz se tenaient par tous les bouts aux romans sombres qui confusément se racontaient, car une jeune fille avait été trouvée sur le même banc que la comtesse Corona, une jeune fille évanouie la nuit, seule. Des voix inconnues avaient prononcé le nom d'Edmé. Il y avait des liaisons entre elle et ce Bruno, et elle habitait la maison des trois jeunes gens, et que sais-je, maintenant, croyait-on à tout cela? Paris croit et ne croit pas, il se connaît, il a conscience d'être la forêt au miracle. Il bavarde froidement, colportant ses impossibilités qui, le lendemain, deviennent de l'histoire. Il n'y croit pas, non, seulement quand la chose est une fois arrivée, la chose absurde, invraisemblable, impossible. Il cligne de l'œil de Voltaire et vous demande, avec la bonne foi de Beaumarchais, « Ne vous l'avais-je pas dit ?» On ne croyait pas, mais on regardait passer le baron Schwartz, digne et courtois, sous son embonpoint conquis. On l'écoutait dire aux dames, avec l'accent de cette langue d'or parlée par les Israélites, « Aimable au dernier point, madame la comtesse, reconnaissant de la grâce que vous nous faites, monsieur le duc. Oh, véritable honneur pour nous, madame la marquise !» En ayant soin, malgré ses habitudes laconiques, de ne jamais oublier un titre. Il allait, comme c'était son devoir, à tous ceux qui avaient droit. Non seulement il n'y avait sur son visage ni inquiétude ni abattement, mais les observateurs croyaient y lire une allégresse intime ou le travail d'un grand espoir. Une passion vraie, jeune, naïve, allumait sa prunelle quand son regard rencontrait la radieuse beauté de sa femme. Monsieur Lecoq lui avait glissé quelques mots en passant. Monsieur Lecoq de la Perrière marchait accompagné d'un adolescent de haute taille, très beau, quoique un peu lourd et remarquable par son profil bourbonien. Le mariage de Blanche avec ce jeune fou de Maurice n'était pas encore accompli. Chacun pouvait voir comme monsieur de la Perrière était bien conservé et pourtant faire que de céder la place, lui qui avait été le fiancé officiel. Écoutez, là était peut-être la raison de ce triomphe contenu qui rehaussait la tête du baron Schwartz. On savait que monsieur Lecoq avait été reçu aux Tuileries, et plus d'une noble dame contemplait les traits de son jeune compagnon avec une émotion pieuse. Le duc, ainsi l'appelait-on, point de nom pour remplacer celui de Bourbon auquel il avait droit et qu'il ne lui était pas encore permis de porter. Ce jeune homme occupait bien des pensées. Une entrée qui produisit une énorme sensation fut celle du personnage haut placé dans l'administration que nous avons désigné dans le récit des obsèques du colonel sous le nom de l'inconnu. Monsieur le marquis de Gaillardbois le suivait comme son ombre. L'inconnu salua monsieur Lecoq et son jeune compagnon avec distinction. Mais si vous saviez comme Edmé et Michel d'un côté, Maurice et Blanche de l'autre, étaient loin de tout cela, et à quelle hauteur ils planaient au-dessus de ces brouillards. Maurice pourtant venait de rencontrer son père, l'ancien commissaire de police, qui lui avait dit, en serrant sa main gravement, « Je suis content que vous soyez rentré chez monsieur le baron ». Même scène entre M. Roland et Étienne, qui n'avait plus d'amour celui-là, mais qui respirait dans cette atmosphère enfiévrée les propres essences de son drame. Étienne sentait violemment ces menaces de catastrophe avec lesquelles d'autres jouaient. C'était sa proie, il la guettait. Vers 1 heure du matin, M. Roland et Schwartz de la préfecture se réunirent dans une embrasure. « Il paraît que c'est pour cette nuit, » dit l'ancien commissaire de police qui essaya de railler. « On va nous prouver que pendant 17 ans, nous avons eu tort de dormir sur nos deux oreilles. » Le magistrat répétait gravement, « Il paraît que c'est pour cette nuit, on va nous prouver cela. » Un homme que ni l'un ni l'autre ne connaissait s'approcha d'eux, les salua et leur dit à voix basse, « Messieurs, tenez-vous prêts, le signal sera... » La justice est infaillible. Ils tressaillirent tous deux, et le rouge de la colère monta aux joues du magistrat. Mais l'homme avait salué de nouveau avec une froide courtoisie. Ce n'était qu'un messager portant des paroles dont le sens lui échappait sans doute. Monsieur Roland et Monsieur Schwartz de la préfecture, échangeant un regard silencieux, le laissèrent se perdre dans la fête.